Shabbos, Shabbos, Koydesh. Yidelech, prepare for Shabbos, Koydesh. Joy is in the air for Shabbos, Koydesh. Everyone with a soul aflame to meet the Shabbos, Koydesh. Everyone with a role to play to greet the Shabbos.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du commentaire de la paracha après quelques semaines d'interruption dues aux vacances estivales. Nous sommes toujours avec grand plaisir avec monsieur le grand rabbin de Strasbourg et de sa région, monsieur le grand rabbin Harold Weil. Bonjour.
Bonjour Jean.
Comment allez-vous?
Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison.
Moi aussi.
J'espère que vous avez passé de bonnes vacances.
Vous avez passé de bonnes vacances alors?
Moi, grâce à Dieu, oui.
Grâce à Dieu. Que... Alors, on va parler évidemment de la paracha de la semaine. Cette semaine, c'est la paracha Kitavo, l'allumage des bougies de ce Shabbat. Selon le calendrier, ce sera à 19h53, mais vous pourrez allumer les nérotes à partir de 18h50. Et la fin du Shabbat, ce sera demain à 20h59. Ces horaires sont valables uniquement pour Strasbourg et sa région. Comme chaque semaine, on souhaite évidemment un refouage chez les mains à tous nos malades et un Shabbat Shalom particulier à nos aînés et aux personnes isolées. Avant de commencer, M. Rabin, je voudrais dédier cette émission à la mémoire de Mesrouda Batrishka. Et donc, c'est son yahrzeit cette semaine. Ça fait 9 ans, et donc on voulait lui dédier cette émission. On va parler de la paracha dans un instant, mais depuis quelques jours, même quelques semaines, les Sfaradim ont commencé les Slirot, et les Ashkenazim vont les commencer bientôt. C'est quoi cette cérémonie, à quoi ça sert?
Ah, les Slirot, effectivement, vous avez raison de le préciser. Les Sfaradim se lèvent très tôt, le matin, depuis déjà un peu plus de 2 semaines, afin de réciter un certain nombre de supplications. Donc c'est une cérémonie qui dure une bonne heure en principe, qui précède la prière traditionnelle du matin de Shacharit, et qui est inhérente à la période des Loul, donc en préparation aux fêtes de Tishri, qui sont les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, puisque Jean ne peut pas se présenter le jour du jugement devant Dieu, où on devra à ce moment-là donc rendre des comptes sans s'être préparé spirituellement, moralement, psychologiquement, à cette journée, à cette rencontre.
Et pourquoi une différence entre les Sfarad et les Ashkenaz?
Alors, c'est une différence de tradition. Historiquement, on va dire que les 40 jours de Slichot, puisque dans la tradition Sfarad, où on commence les Slichot à Rosh Chodesh Elul et où on les termine à Yom Kippour, hein, donc on a un mois entier de 30 jours, mois d'Elul, plus les 10 jours du mois de Tishri, qui nous amène jusqu'à Yom Kippour, ça fait 40 jours, et ces 40 jours, ça évoque quelque chose chez vous, peut-être, Jean. Ça évoque la dernière montée de Moshe Rabbeinu, de Moïse, pour recevoir les secondes tables de la loi, avec donc le fameux pardon obtenu le dit Tishri, le jour justement de Yom Kippour. Donc vous voyez le lien très fort qui existe entre la journée d'Yom Kippour, journée du pardon, et le pardon de Dieu suite à la faute du veau d'or. Et donc ces 40 jours de slichot, de supplication pour les Sfaradim font écho à ces 40 jours. D'ailleurs, on les retrouve sous d'autres formes. Nous savons que dans le mois de Elul, on aime bien jouer avec les mots dans notre tradition, le mois de Elul, donc composé de 4 lettres, Aleph, Lamed, Vav et Lamed, on a l'habitude de lui donner plusieurs significations, de nous donner plusieurs acrostiches de ce mois d'Elul. L'un des plus célèbres est Anil et Dodili et Dodili, emprunté au célèbre cantique des cantiques, Shirachim, Anil Dodi Vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Donc une relation de proximité, d'intimité incroyable entre Dieu et le peuple d'Israël. Ce sont vraiment les retrouvailles, c'est un moment où on peut tout demander à Kadosh Baruch Hu, on peut tout demander à Dieu à partir du moment où on accepte de se livrer à lui, où on accepte de se confier à lui et où on accepte de se mettre à nu devant lui et d'être dans une honnêteté intellectuelle absolue. Et si vous prenez non pas les premières lettres mais la fin de chaque mot, la dernière lettre de chaque mot, Ani, Le Dodi, Ve Dodi Li, on a 4 fois Yud, Jean. 4 fois Yud, et ben ça fait 40. 4 fois la lettre Yud, la lettre Yud c'est 10. 4 fois 10, 40. Donc encore une fois, on retrouve ce chiffre de 40. Les Ashkenazim, eux, ont pris l'habitude, vous avez raison, c'est des Ashkenazim qui sont un peu étranges, un peu bizarres, puisque eux, ils se sont, on va dire, octroyé cette liberté de ne pas commencer au début de cette période de 40 jours, mais de commencer la récitation des Slichot un peu plus tard, à savoir quelques jours seulement avant Rosh Hashanah. Alors cette année...
C'est une semaine, non?
Cette année où Rosh Hashanah tombe un vendredi soir, les Slichot commencent le dimanche qui précède Rosh Hashanah. Lorsque Rosh Hashanah est un peu plus tôt dans la semaine, dans ce cas-là, on commence les Slichot le dimanche d'avant. Il faut quand même qu'il y ait un nombre de jours minimum de récitation de Slichot, même dans la tradition Ashkenaz. Pour autant...
Mais c'est le même texte?
Alors, ce ne sont pas tout à fait les mêmes textes, mais... Il est important de presser, Jean, notamment pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas familiers justement de ces textes, et pour bien qu'ils comprennent que dans la tradition juive, d'une manière générale, même s'il y a des différences au niveau des airs, au niveau de la liturgie, le corpus est tout à fait identique. Et donc, ce qui est au centre des Slichot, ce sont notamment ces passages du Hachem, Hachem, Kel Rachum Bechanoun, où nous allons réciter les 13 attributs de miséricorde de Dieu. Et ce sont ces 13 attributs de miséricorde qui ont été eux-mêmes employés par Moïse au moment où il a demandé le pardon suite à la faute du veau d'or. Donc, on ne fait que s'inspirer au travers de ces Slichot d'une méthode qui a fonctionné, qui a été celle que Moïse... lui-même a utilisé pour se faire pardonner de l'écart le plus grand et le plus gravissime jamais commis par le peuple d'Israël. C'est quelque chose qui a fonctionné. On met en avant tous les attributs de Dieu et c'est en cela que les Slichot, on va dire, on trouve un point commun. Quelles que soient les traditions, après, bien évidemment, il y aura des différences au niveau des airs et des différences également au niveau du texte, de la composition de ces différentes supplications. Mais l'élément central, celui-là, on le retrouve, que ce soit chez les Ashkenazim et les Sfaradim. Certains sonnent du shofar pendant les Slichot, comme c'est le cas dans la tradition Sfarad. Les Ashkenazim ne le feront qu'à la fin de l'office, chaque matin. Mais je précise quand même, Jean, parce que vous me parliez des Ashkenazim qui commencent un peu plus tard, que le début du mois d'Eloul est aussi chez les Ashkenazim en quelque sorte le départ d'un marathon avec notamment donc, cette sonnerie de chauffard que j'évoquais à la fin de la tfila et la récitation d'un psaume tout à fait particulier, hein, les David Hachem Ori Veishi, c'est un psaume qu'on connaît bien également chez les Sfaradim qui le récite aussi, donc tout ça pour dire que tout le monde s'accorde à dire que le mois d'Eloul, depuis le premier jour, depuis Rosh Chodesh Eloul, est le départ d'un grand marathon qui doit nous mener tout droit vers les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour.
On reprend les bonnes habitudes avec le résumé de la paracha de Veillez-vous aujourd'hui.
De Kitavo.
Kitavo.
Alors, le résumé de la paracha de Kitavo va être assez court, Jean, parce que cette paracha, on peut le dire, on peut l'affirmer, tout simplement divisée en deux parties, hein, ce qui n'était pas le cas de la paracha de la semaine dernière, qui était une paracha très très longue avec un très très grand nombre de commandements. La paracha de Kitavo, qui est aussi une paracha assez longue, ne contient, on va dire, que deux grands sujets. Le premier, hein, dont on va parler dans quelques instants, qui est celui des prémices, que l'on appelle les bikurim en hébreu, donc l'une des dernières mitzvot, l'un des derniers commandements que nous livre la Torah, avant de conclure le Deutéronome, le cinquième livre de la Torah. Et dans une deuxième partie, même un peu plus longue, donc c'est un peu déséquilibré ces deux parties dans notre paracha, nous allons avoir cette fameuse série des bénédictions et des malédictions. Donc je parlais de déséquilibre, des équipes que l'on va retrouver à l'intérieur même de cette seconde partie, puisqu'on a beaucoup plus de malédictions que de bénédictions, et on va se retrouver confronté à des choses pas très très agréables qui seraient susceptibles d'arriver au peuple d'Israël si jamais il ne remplissait pas sa part du contrat, hein, un contrat moral avec Akadosh Baruch Hu, hein, et chacune des parties se doit de respecter son engagement moral, donc c'est un petit peu ce qui va être mis en avant dans cette paracha de Kitavo, et c'est de cette manière que nous pouvons très brièvement résumer cette paracha.
Alors, vous avez de Bikurim, c'est une mitzvah, en quoi elle consiste exactement?
Alors, en quoi elle consiste? Déjà, le mot Bikurim, j'ai dit les mots, c'est important, les prémices, pourquoi ça vient du mot Bechor, hein, ça ne vous a pas échappé, Jean?
Oui. Donc,
toujours, lorsqu'on cherche à déchiffrer un petit peu un mot qui nous est étranger, essayez de regarder sa racine. Dans le mot de Bikurim, vous avez bien sûr la racine Bechor. Vous retrouvez le Bet, le Chaf et le Resh. Bechor, Bechor, c'est l'aîné. Chez nous, on le sait, c'est un mot qu'on connaît, qui est déjà apparu dans la Torah, notamment au début du livre de Shemot, lorsqu'on va nous parler de la sortie d'Égypte et du rôle qu'ont joué les premiers-nés à ce moment-là et des premiers commandements qui sont inhérents aux premiers-nés, eh bien, nous retrouvons donc cette notion donc de Béchor, de premier-né, au travers cette fois-ci des fruits, pas n'importe lesquels, hein, il s'agit des 7 espèces d'Israël, hein, qu'on peut rappeler, Jean, peut-être à ce micro.
Allez-y.
Hein, le blé, l'orge, hein, et alors vous allez m'aider,
la
Jean.
La date, l'olive.
La date, l'olive, on va voir si vous avez des bons restes, Jean.
Oui.
La grenade.
La grenade, oui.
Le raisin.
Le raisin, oui.
Et qu'est-ce qu'on a oublié encore, Jean ? La figue.
La figue,
voilà.
Évidemment.
Donc nous avons 7 espèces. Et donc la mitzvah, le commandement qui consistait donc à ce que chaque agriculteur apporte les premiers fruits des 7 espèces qui avaient été donnés par des arbres plantés sur son propre terrain. C'est une condition qui est très importante, Jean. Il fallait absolument que ces fruits-là aient été donnés par des arbres qui soient plantés sur un terrain qui appartienne totalement à l'agriculteur. Pas, voilà, il y avait des configurations qui faisaient que l'arbre avait pu être greffé avec un autre arbre qui n'appartenait pas sur son terrain. On ne va pas rentrer dans les détails, mais donc c'est une condition vraiment importante que ce soit
le propriétaire
de ce fruit qui apporte donc le premier fruit de ces 7 espèces qu'il plaçait dans un panier et qu'il devait ensuite apporter à Jérusalem. Donc ça concernait tous les agriculteurs d'Eretz Israël. Vous savez qu'Israël, même si ce n'est pas un grand pays, ça pouvait représenter une trotte à l'époque, lorsqu'on venait de l'extrême nord du pays ou de l'extrême sud pour se rendre jusqu'à Jérusalem. C'était un long chemin, un long trajet, et qui se passait en fanfare. On n'en parle pas souvent. Souvent, on s'en tient à ce que nous dit la Torah. On ne va pas forcément fouiller dans ce que nous en dit la tradition orale, parce que la Mishnah va bien sûr éclairer ce commandement de la Torah en nous donnant tout un tas de détails sur la manière dont cette mitzvah, ce commandement se déroulait, et c'était un moment de joie intense où toute cette délégation, il faut savoir, Jean, que les différents agriculteurs par département ou par ville avaient l'habitude de se rassembler pour faire le chemin ensemble. C'était beaucoup plus agréable et il y avait sans doute un côté aussi peut-être un peu plus officiel à se rassembler pour se rendre à Jérusalem jusqu'au temple de Jérusalem, au Beth Amikdash, et donner en cadeau ces fruits au Kohen.
Mais quelle différence c'est entre, par exemple, les Bikurim et la Trouma ou des dîmes?
Alors, c'est autre chose. Voilà, vous faites une référence à un sujet qu'on a déjà évoqué à ce micro, qui est celui de l'obligation pour un agriculteur de prélever une partie de sa récolte afin de la redistribuer, une partie revenant au Kohanim, une partie revenant au Lévi'im, une autre partie qui devait être consommée par l'agriculteur lui-même à Jérusalem dans certaines conditions, ou bien qui certaines années était redistribuée aux pauvres, donc qui était vraiment destiné aux œuvres de bienfaisance. Là, ça n'a rien à voir. Nous allons l'expliquer tout de suite. Nous sommes dans un principe qui est un principe de reconnaissance, c'est-à-dire pour l'agriculteur, manifester sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu, de pouvoir bénéficier d'une belle récolte. On va voir à quel point, dans notre tradition juive, cette notion de reconnaissance que l'on appelle la Hakarat HaTov est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc, il y a quelque chose de très symbolique, vous l'avez compris,
oui,
Jean.
On va y arriver, je voudrais qu'on avance un peu dans le système. Vous disiez, dans le résumé, que c'était la dernière mitzvah de la Torah.
L'une des dernières, effectivement.
Pourquoi ?
Alors,
c'est quoi le principe ?
Ben, ça fait suite à ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que cette notion de Hakarat HaTov dont je parlais, ce principe de reconnaissance, est un principe tellement fondamental dans la Torah que la Torah a sans doute estimé qu'il était important de terminer la liste des commandements par celui-ci, comme pour nous dire que si il y en a un en particulier que l'on devait retenir, vous savez, Jean, on retient souvent ce qu'on a lu en dernier, c'est comme ça, même je dis, quand on lit un livre,
souvent
on se rappelle des dernières pages, on se rappelle un peu moins des premières pages. Alors attention, surtout que nos auditrices et nos auditeurs ne comprennent pas que de mes propos que les autres commandements seraient moins importants. Je dis simplement que lorsque la Torah va choisir à dessein une mitzvah en particulier pour figurer dans les dernières lignes de la Torah, c'est sans doute pour mettre l'accent sur cette mitzvah, pour mettre le projet sur cette mitzvah, d'autant plus, Jean, je le disais, que par rapport à la paracha de la semaine, la paracha de Kitetsé, où on a des dizaines de commandements qui sont insérés dans la paracha, parfois de manière un petit peu anarchique, dans cette paracha de Kitavo, on a très peu de commandements, finalement. C'est la deuxième partie est consacrée à des bénédictions et des malédictions, et là, on a vraiment un focus qui est fait sur cette mitzvah en particulier, comme pour nous dire la notion de reconnaissance, être capable dans la vie de reconnaître le bien qui nous a été fait est quelque chose de fondamental. Alors, un juif ne peut pas progresser dans la vie, il ne peut pas avancer, il ne peut pas se construire, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas appréhender son rapport à l'autre s'il n'est pas capable avant tout de manifester de la reconnaissance vis-à-vis de celui qui lui a fait du bien.
Alors il y a l'année dernière dans nos discussions, vous parliez d'humilité, de soumission du peuple d'Israël, en gros, en général. Pourquoi vous utilisez ces deux mots aussi, humilité et soumission?
Les deux, parce que cette mitzvah de Bikurim, Jean, elle est le symbole de cette humilité, de cette soumission. L'humilité, effectivement, c'est prendre le contre-pied d'un orgueil qui pourrait être naturel, certains diraient même légitime, lorsqu'un agriculteur qui a travaillé à la sueur de son front, très très dur, durant des mois pour obtenir cette récolte, voit enfin le fruit de son travail. Voilà, sans mauvais jeu de mots, il constate, et c'est pour ça qu'il y a également cette notion de soumission dans le fait d'apporter ses fruits, parce que ça peut faire mal de se séparer de son premier fruit. Son premier fruit, c'est tout un symbole, même s'il y en aura beaucoup d'autres, peut-être des dizaines de milliers, tout dépendait bien sûr de la taille de l'exploitation de l'agriculteur, mais le symbole du premier fruit qui sort de l'arbre, le fait d'être capable de s'en séparer en disant ben, « certes, c'est peut-être tout un symbole, c'est peut-être ce fruit-là qui représente tout mon investissement et toute la qualité de mes efforts, et pour autant, justement, cette soumission, c'est être capable de prendre ce fruit, être capable peut-être de se faire mal, de se faire violence pour dire, eh bien, ce fruit, qui est ce que j'ai de plus précieux, ce que j'ai de plus cher, je vais m'en séparer pour l'offrir au Kohen. Le Kohen qui est bien sûr le représentant ici d'Akadosh Baruch Hu, et de cette manière, eh bien, je manifeste ma reconnaissance. Rappelez-vous, Jean, rappelez-vous que dans la parasha de Bereshit, dans le premier texte de la Torah, la première parasha de l'année, lorsque Caïn va tuer son frère Hevel, il le tue suite à une histoire, alors bien sûr qu'on va s'y résumer de manière extrêmement simpliste, qui paraît être un problème de jalousie, puisque Caïn a eu l'initiative d'apporter un cadeau à Dieu, que Hevel va l'imiter a priori en ne faisant que reproduire le geste de son frère, et pourtant eh bien Dieu, rappelez-vous Jean, va agréer le présent de Hevel, et il ne va pas agréer celui de Caïn, ce qui va provoquer la colère de Caïn. Sauf que nous le savons, la différence entre le présent offert par Caïn et le présent offert par Hevel, c'est que Caïn, bien qu'à l'initiative de cette démarche d'offrir quelque chose à Dieu, n'a pas pris le soin d'offrir ce qu'il avait de plus précieux. Et il a offert finalement un vulgaire présent, quelque chose qui finalement ne représentait pas un effort si important de sa part. Hevel, lui, va se faire violence pour offrir ce qu'il a de plus cher, ce qu'il a de plus beau. Voilà, lorsqu'on veut manifester la reconnaissance que l'on a pour l'autre, eh bien, il faut parfois se faire un petit peu violence et être capable de se séparer de quelque chose. Pas de se séparer de quelque chose dont on n'a pas besoin. Mmh. Sinon, ça ne s'appelle plus, ça s'appelle plus un cadeau et ça n'a plus la même valeur.
Alors, vous parlez tout à l'heure de fanfare, de sorte de farandole, et on voit dans la Torah que la Torah insiste sur le fait de faire cette mitzvah avec joie. Ça veut dire qu'on fait les bikurim avec joie et les autres mitzvahs, on les fait avec douleur.
Sûrement pas, Jean, mais vous mettez l'accent sur quelque chose de fondamentalement important. C'est le verset, à la fin de tout ce passage sur les bikurim, qui nous dit « Vesamarta becholatov, tu te réjouiras de tout le bien qu'Hachem, justement, t'a octroyé ». Et pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur la simcha ici? Peut-être, Jean, justement parce que, comme je l'évoquais il y a quelques instants, il y a dans cette mitzvah, dans ce commandement, quelque chose qui pourrait mettre l'agriculteur dans un état de tristesse, en se disant, bah, finalement, oui, je me soumets à l'ordre de Dieu, oui, je me fais violence parce que je me sépare de quelque chose de précieux, mais justement, le fait de me séparer de quelque chose de précieux, eh bien, me pèse et peut, d'une certaine manière, avoir une influence, on va dire, négative sur l'état d'esprit dans lequel je vais continuer maintenant à évoluer. La Torah me dit surtout pas. Voilà, sache que par cette mitzvah, lorsque tu amènes ces bikurim, eh bien, tu t'ouvres le champ des possibles. C'est au contraire un geste extraordinaire que tu es en train de réaliser. Et donc, sois capable de profiter de l'instant présent.
Comment on peut intimer à quelqu'un d'être heureux
eh bien, on ne lui intime pas justement
l'ordre. C'est écrit.
Vesamarta becholatov, pardon, on peut le comprendre comme une conséquence. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait capable de vivre cette mitzvah de manière pleine et entière, comme je l'ai dit, pas simplement uniquement pour se débarrasser.
Vous dites d'un côté que c'est difficile pour un agriculteur de laisser ses premiers fruits. Déjà, il n'est pas très content, mais il le fait parce qu'on demande. Et après, on dit, sois content. Ah oh,
Jean, la question que vous posez est une question qui peut s'étendre en réalité à d'autres commandements de la Torah, qui sont des commandements qui touchent directement aux émotions et au cœur. Et donc c'est un sujet d'ailleurs qu'on avait abordé, il me semble que c'était l'année dernière, il y a eu un grand cycle de conférences organisé par le rabbin Ribibo, qui avait très très bien fonctionné, sur le commandement qui consiste à aimer Dieu. Et donc on avait étudié cette question sous toutes ses formes, mais comment est-ce qu'on peut exiger d'une personne qu'elle maîtrise ses émotions? Les émotions, par définition, c'est quelque chose qui va, qui vient, on a parfois des hauts, des bas, et on ne peut pas exiger d'une personne qu'elle soit capable de contrôler ses émotions, ou en tout cas pas toujours comme elle le souhaiterait. Et finalement l'amour, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose qui vient, qui peut être le fruit d'une rencontre, d'une expérience particulière, mais demander à tout un chacun qu'il soit capable de créer en quelque sorte des émotions artificielles, cela paraît être très compliqué. C'est pour cette raison, Jean, que je vous dis qu'en ce qui concerne ici la notion de joie, on ne demande pas ici à une personne de créer de la joie artificielle, on est simplement en train de dire que cette joie est non pas un moyen, mais la conséquence, peut-être, est le résultat d'un état d'esprit dans lequel je vais accomplir cette mitzvah.
D'accord.
Si j'accomplis cette mitzvah exactement dans l'état d'esprit dans lequel la Torah me l'a demandé, eh bien, je vais ressentir une forme de sérénité. Et cette joie-là, c'est cela. Vous savez, Jean, les mots sont souvent, malheureusement, un petit peu dévoyés en français, ils n'ont pas le sens qui est celui que la Torah a voulu leur donner en hébreu. Et lorsqu'on parle ici d'une joie, mais d'une joie comme celle de la Simcha qui mentionne dans le Passouk, on pourrait imaginer qu'il s'agit ici d'une certaine forme de joie extérieure, c'est-à-dire la capacité que peut avoir un homme à éclater de rire ou à vraiment à sentir un sentiment de bien-être. Non. Il ne s'agit pas du tout de cela ici, Jean. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. La joie, c'est le sentiment du devoir accompli. La joie, c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose qui me permet non seulement à moi d'avancer dans la vie, mais également de faire avancer l'autre. Vous savez, le rabbin Spingarn, hier, je fais une petite digression, mais qui me paraît fort importante. Il citait dans un petit commentaire qu'il a rappelé que lorsque j'ai été intronisé, mais c'est une bracha qu'il a dû faire à d'autres personnes, il m'avait souhaité d'être Ishmatzliach. Ishmatzliach, c'est le nom que Potiphar avait donné à Yosef lorsque Yosef était son intendant brillant dans sa maison. Et il a rappelé que le mot Ishmatzliach, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire et de traduire, c'est pas un homme qui réussit, mais Matzliar, c'est un homme qui fait réussir les autres. Donc la joie, finalement, et la joie intense, la véritable joie profonde, c'est pas celle de soi-même être quelqu'un qui pourrait s'inscrire dans une certaine forme de réussite, mais c'est de savoir qu'au travers de ce que l'on fait, eh bien, on est aussi capable d'élever les gens qui se trouvent autour de soi et de faire réussir les autres. Ça, c'est le véritable sentiment de plénitude. Or, dans les Bikurim, il y a, je l'ai dit, cette communion avec Akadosh Baruch Hu, avec le Kohen, bien sûr, qui est le représentant, en quelque sorte, d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on a ce sentiment, justement, de communion, eh bien, et qu'on sent qu'en s'élevant, on élève aussi le Kohen et on élève aussi cette relation avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est là où on est capable de ressentir de la sérénité et une joie authentique.
Ok, on va passer au deuxième sujet de cette paracha, les malédictions et le dernier.
Pourquoi vous voulez parler de choses tristes, Jean? C'était tellement beau, on parlait de joie, on parlait de bikouri, mais
ça,
vous m'amenez sur un sujet.
C'est ça la Torah. On passe de la joie à la tristesse. Alors, on va passer, monsieur Grand Rabbin, aux dernières parties de cette paracha avec les malédictions. Et dans la dernière malédiction de la première version, dans le dernier verset, c'est plutôt une malédiction générale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça?
Alors effectivement, vous avez raison de signaler que, de manière assez étrange, alors que la Torah a détaillé un certain nombre de harurim, de malédictions, la dernière va reprendre de manière globale un petit peu toutes les malédictions précédentes en nous disant « Maudit soit celui qui ne réalisera pas les paroles de cette Torah ». Donc c'est très général, on a l'air de nous parler de l'ensemble des commandements alors qu'on a mis l'accent, les versets précédents, sur des choses bien particulières. Voilà, je crois qu'il y a ici un message fondamental qui est de nous parler de l'unicité de la Torah. C'est vraiment fondamental, c'est très important. On peut parfois être tenté de donner plus d'importance à une mitzvah qu'à une autre, tenter d'imaginer qu'il y a certains commandements qui sont peut-être un peu plus importants que d'autres, d'attribuer des points. D'ailleurs, je vous rappelle que si la Torah a volontairement évité justement de nous donner notamment la récompense des mitzvot, hein, vraiment à quelques exceptions près, comme notamment la mitzvah du respect des parents ou de Shiloh HaKohen. Si on n'a pas de récompense, c'est justement pour éviter que l'homme ne fasse d'arbitrage. Il n'y a rien de plus dangereux que de faire un arbitrage qui serait totalement farfelu sur l'importance de telle ou telle mitzvah, parce que certaines personnes, on sait, vont avoir, de par leur sensibilité, une propension à accomplir plus facilement tel commandement qu'un autre. Ça peut être lié à tout un tas de paramètres, et donc il serait, ou alors tout simplement à des valeurs complètement subjectives, qui peuvent être liées à une éducation, à un milieu, à un environnement culturel, etc. Donc il n'y a rien finalement de plus dangereux que de vouloir décider soi-même d'attribuer des notes ou une importance à certaines mitzvot plutôt qu'à une autre. Donc là, il a fallu bien sûr mettre l'accent sur des comportements, on va dire, particulièrement graves, mais pour autant terminer en nous rappelant bien, et c'est important qu'un homme finalement ne perde pas de vue le fait que dans la Torah, il y a bien sûr un tout, que tous les commandements sont indissociables et qu'il y a une certaine cohérence à avoir dans l'accomplissement de ces mitzvot et dans la manière dont on appréhende la Torah.
Alors, on va arriver à un sujet qui est extrêmement important et très sensible, c'est le sujet des Torahot. On a souvent l'habitude de dire que quand on voit quelqu'un d'autre faire une mauvaise action, on doit lui dire, en tout cas, de faire des remontrances, et pourtant, c'est pas aussi simple que ça.
Ah, c'est pas aussi simple. Alors, c'est une mitzvah, hein, nous l'avons vu dans le livre du Lévitique,
ah,
hein, dans
l'Autéronome.
Il y a une obligation, bien sûr, de faire des remontrances. Alors, c'est toujours plus facile de faire des remontrances, hein, que d'accomplir certaines autres mitzvahs, que faire des compliments. Hein. Je rappelle que c'est aussi une mitzvah. On a aussi une mitzvah qui consiste à aider son prochain, qui consiste aussi à l'encourager, qui consiste à l'aider, d'ailleurs, sous beaucoup de formes. Et c'est vrai que, on a certaines personnes qui vont, et on a aussi une mitzvah qui nous interdit de dire du Lachon Hara, d'avoir des propos calomnieux sur une personne, ou tout simplement, comme j'ai dit, de faire du colportage. Donc, c'est sûr qu'il est, souvent plus facile, on va dire, d'accomplir certains commandements que d'autres. Et, pour autant, ces commandements existent. Hein, c'est pas parce que, comme je l'ai dit, c'est sûr que c'est a priori plus aisé pour une personne de faire des remontrances à une autre personne que de l'encourager ou que de lui faire des compliments, que cette mitzvah n'existe pas. Pour autant, bien sûr, il y a une manière de dire les choses. Alors la Torah, elle, peut se permettre de les dire d'une certaine manière, parce que c'est la Torah qui parle, c'est Dieu en quelque sorte qui parle, donc lui, il peut se permettre parfois d'être un peu plus direct et un peu plus cru. Pour autant, nous voyons que Kadosh Baruch Hu, lors de plusieurs passages dans la Torah, plusieurs occurrences, on le voit notamment au début du Sefer Devarim, lorsque Dieu, au tout début du Sefer Devarim, tient à faire quelques remontrances au peuple d'Israël, il le fait de manière extrêmement subtile. Et nous devons apprendre justement du comportement d'Akadosh Baruch Hu, même si Akadosh Baruch Hu, qui avait de sérieuses choses à reprocher au clan d'Israël, eh bien, a fait en sorte que les choses soient dites avec beaucoup de douceur, qu'elles soient dites parfois même par allusion, et bien sûr à l'homme aussi de comprendre que dans la manière dont il va exprimer les choses, premièrement, à lui de scruter déjà son propre comportement et à lui de délivrer son message de telle sorte à ce que le message soit à la fois clair mais qu'il soit reçu par l'autre. Si le travail est contre-productif, bien sûr, l'homme sera passé à côté de ce qu'il cherchait, de son objectif. Pour autant, cette mitzvah de Ochiar Tochiar est très importante parce qu'elle rappelle que nous sommes tous responsables les uns des autres et qu'en aucun cas, bien une personne ne peut justifier sa passivité et finalement sa capacité à laisser faire des choses qui sont des choses qui mettent en danger la société, la collectivité, sous prétexte que finalement chacun est libre de faire ce qu'il veut. Oui, bien sûr, chacun a son indépendance, chacun a sa liberté de conscience, sa liberté de pratique, ce que vous voulez, mais pour autant, eh bien, il y a une responsabilité collective. Kol Israël arivim zelazé, nous sommes tous garants les uns des autres. Et donc à nous vraiment d'être capables, encore une fois, de savoir trouver les mots pour dire ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, et voilà, le faire de manière, comme j'ai dit, la plus efficace possible.
Voilà, merci à M. Grandmain d'être avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Lucas pour la réalisation technique. Shabbat shalom.
Shabbat shalom, Jean.
Shabbat shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh, everyone with a soul aflame to meet the Shabbos Kodesh.